Seigneur a dit que la lumière soit. Gloire à Dieu pour ces bons moments dans la présence du Seigneur. L'Esprit de Dieu a agi et plusieurs au milieu de vous ont déjà été bénis ce matin. J'en suis convaincu. Et cette bénédiction, elle va continuer, pas simplement pour cette matinée, mais toute la journée, toute la semaine et autant de temps que le Seigneur le voudra. Amen. Dieu n'est pas limité. Et c'est pour cela que nous voulons entrer vraiment dans cette dimension. Et je crois que c'est vraiment inspirer la liberté dans l'esprit. Être un témoin de Jésus, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Et je pense que c'est un appel pressant de la part du Seigneur de réaliser que sa parole, plus que jamais, nous éclaire et nous inspire pour agir comme il le faut dans les temps que nous vivons. J'ai choisi un texte, plusieurs textes, dans la parole de Dieu. Nous allons commencer par 2 Timothée 3, 16, 18. Paul dit ceci, « Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » J'ai choisi pour le verset 17 une autre version, la version Français Courant, qui, à mon avis, est très explicite. « Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Préparé et équipé. Je pense que Paul, inspiré par l'Esprit Saint, parlait à ceux de sa génération, mais il parlait aussi à notre génération. Je crois que plus que jamais, ces paroles de l'Écriture et de l'homme de Dieu s'adressent à nous ce matin. Il faut qu'aujourd'hui, l'homme, la femme de Dieu, le peuple de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour les temps que nous vivons, pour ceux que nous allons vivre. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une génération qui va en quelque sorte confirmer la parole de Dieu, la parole de Jésus, particulièrement Matthieu 24, 8. Dans les derniers temps, eh bien, nous savons qu'il y aura des temps difficiles. Jésus parle de guerre, de bruit de guerre, une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, des tremblements de terre, des famines. Et Jésus dit une parole qui a percuté mon esprit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Il est important donc que le peuple de Dieu soit parfaitement équipé et parfaitement préparé pour vivre ces temps, pour apporter à ce monde désespéré un message vivant, un message puissant, un message qui va permettre à cette génération de relever la tête. Vous savez que les dernières statistiques disent que 85% de nos contemporains vivent dans l'inquiétude. Vous imaginez cela ? 85% de nos contemporains vivent dans l'inquiétude. Et c'est pour cela que plus que jamais, cette parole prophétique de l'apôtre Paul est pour nous ce matin, pour notre génération, pour les hommes, les femmes de Dieu, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Nous sommes tous interpellés, nous sommes tous appelés à être préparés et équipés. Nous allons suivre le témoignage de Paul dans cette expérience, justement, être un témoin dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, et voir comment cet homme de Dieu s'est comporté afin que nous puissions suivre son exemple. C'est dans le livre des Actes, chapitre 27, que nous connaissons parfaitement, où nous allons suivre l'homme de Dieu et voir comment, dans une situation compliquée qui semblait perdue, eh bien, l'homme de Dieu va être un témoin préparé et équipé. Paul a été arrêté à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Christ, et il va être conduit à Rome. On va faire monter sur un bateau. Ce n'étaient pas les grands bateaux de croisière d'aujourd'hui. Ces bateaux avançaient qu'avec la puissance du vent, se dirigeant par les étoiles et le soleil pour arriver à destination. Voilà que les choses vont se compliquer et ce voyage va devenir un voyage dangereux, périlleux. Et l'homme de Dieu, pourtant inspiré, avait donné des conseils au capitaine, à l'équipage. Et c'est ce premier texte, Actes 27, 9, 10, où Paul va s'adresser à l'équipage. Il va leur donner un conseil, car le fond, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu est toujours d'être à l'écoute de l'esprit et de l'inspiration. Et dans ce passage, eh bien, Paul dit que, dans le fond, il ne fallait pas partir, il fallait l'écouter, il ne fallait pas prendre la mer parce que les choses allaient évoluer, allaient changer. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, même chez les enfants de Dieu. Quelquefois, j'ai été surpris par quelques bien-aimés qui venaient me voir en disant « Le Seigneur m'a parlé ». Si le Seigneur t'a parlé, alléluia. Mais au bout de quelques temps, pour quelques-uns, on les a ramassés à la cuillère. Ils avaient confondu, n'est-ce pas, leur désir avec la volonté de Dieu. Ou alors peut-être qu'ils avaient mal compris. Alors il faut être prudent quand on arrive à cette déclaration. C'est la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Je crois que Dieu nous parle. Je crois que Dieu nous inspire. Mais il faut vraiment avoir cette conviction profonde, cette paix dans notre cœur quand nous proclamons que c'est Dieu qui nous a parlé, qui nous a inspirés. Paul avait averti l'équipage et ils n'ont pas écouté. Et ce qui est arrivé est arrivé. Au bout de quelques temps, il y avait la tempête, les choses allaient de plus en plus mal. On avait, n'est-ce pas, la peur de périr, de perdre tout ce que l'on avait. Et Paul est au milieu de tout ce marasme, comme nous pouvons nous trouver aujourd'hui dans notre génération. Mais il y a une chose qui est là et remarquable, c'est que Paul ne s'est pas laissé engloutir par la situation. C'est une première remarque. Paul ne s'est pas laissé engloutir. Mon frère, ma sœur, si tu vis dans ces moments difficiles, ces moments de tempête, eh bien, de la part de Dieu, ne te laisse pas engloutir. Ne te laisse pas engloutir, parce que l'Écriture est là pour toi. Elle est inspirée, utile pour t'aider, te convaincre, te corriger, t'instruire et te montrer dans la voie que tu dois suivre. Alors, Paul, l'homme de Dieu, eh bien, va montrer que, dans le fond, malgré les aimants perturbés, malgré toutes les tempêtes, il y a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui nous écoute. Mais néanmoins, dans cette génération qui est la nôtre, plus jamais, nous avons besoin d'une église où il y a le discernement, où il y a les paroles de connaissance, où il y a les paroles prophétiques, afin que l'église suive, malgré les obstacles, malgré les conflits, malgré les temps difficiles qui arrivent, que l'église suive quand même la volonté de Dieu. David avait une équipe autour de lui qui était vraiment, n'est-ce pas, préparée pour ces choses. Dans le premier livre des Chroniques 12-17, il nous est dit ceci, « Les fils d'Issacar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. » Gloire à Dieu quand une église sait ce qu'elle doit faire. Vous ne croyez pas? Eh oui, savait discerner les temps. Est-ce que nous discernons les temps? Ou est-ce que nous vivons un petit peu, n'est-ce pas, à la légère, suivant un petit peu nos désirs, suivant peut-être nos ambitions, suivant peut-être nos rêves, sans réaliser que la puissance de l'ennemi aujourd'hui est en train de se déchaîner parce que Jésus revient, parce que l'Église va partir, parce que l'Église va rejoindre son Seigneur. Alors nous avons besoin d'avoir ce discernement. Mes frères, mes sœurs, peuple de Dieu, tenez-vous devant le Seigneur et demandez à Dieu un esprit de discernement, un esprit de connaissance pour savoir ce que tu dois faire dans ta vie personnelle, dans ton couple, pour savoir ce que tu dois faire dans l'Église, afin que l'Église aille dans la direction que le Seigneur a choisie pour elle. La première chose que Paul nous révèle. La deuxième, c'est Actes 27, 21-22. On va voir comment Paul va reprendre la situation et comment il va gérer en quelque sorte cette catastrophe qui est en train d'arriver. Paul va reprendre les choses en main. Et comment va-t-il le faire? Comment va-t-il en fait gérer cette situation alors que tout semble perdu, que tout va mal? Eh bien, parce qu'il y avait dans la vie de Paul au moins deux piliers. Deux piliers. Et le premier pilier, je ne te l'ai pas donné, je m'excuse, c'est Galates 2, 22. Paul dit ceci, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Premier pilier, dans la tempête, dans l'épreuve, dans la difficulté, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. » Je disais tout à l'heure que Paul ne s'est pas laissé engloutir par l'événement, mais il a vu plus loin. Il a vu celui qui est fidèle, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et nous avons ce matin, dans les temps peut-être que tu traverses, dans les temps que le monde traverse, nous avons besoin de ce pilier, la foi dans le Fils de Dieu qui s'est livré pour nous. Non pas une foi de théorie, non pas une foi quand tout va bien, mais justement une foi qui demeure quand tout va mal, quand tout est bousculé. Et j'aime cette parole de Paul aux Éphésiens, « Tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est ce que Dieu nous demande. Combien de fois, hélas, nous laissons perturber, nous perdons pied, voire découragés, quand nous passons par ces moments de combat, d'épreuve. Et Paul dit, si tu as la foi au Fils de Dieu, si tu crois en ses promesses, et si tu sais qu'il est vivant pour toi, eh bien, tu tiendras ferme après avoir tout surmonté. Et quand tu t'en prends plein, tu dis « Alléluia, Jésus est avec moi !» Et quand tu te prends une bonne bûche, tu dis « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien !» Et quand tu ne sais plus où tu es, tu dis « Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point » dans les ténèbres. Et on dit... Ah, ça commence à chauffer. Le deuxième pilier qui se trouve dans la vie de Paul, eh bien, il se trouve, lui, dans Romains 8, 37, 39. Tu as le temps de le mettre ? Romains 8, 37, 39. Et on le connaît, hein ? Qui c'est qui peut le lire, au fait ? C'est vrai, tiens, pourquoi pas ? On va travailler tous ensemble. Hein ? Romains 8, 37, 39. Y a-t-il un lecteur, une lectrice ? Voilà. Ne serait-ce la tribulation, les angoisses, l'épée, la nudité, etc., etc. Et Paul dit, rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu dis cela quand ça va mal ? Est-ce que tu dis, Seigneur, s'il te plaît, viens vite, sauve-moi, secours, étends ta main, fais quelque chose ? Et Paul dit, malgré tout cela, malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Voilà donc comment Paul a pu reprendre les choses en main alors que le navire est en train de faire naufrage. Alors que ça craque, ça va mal de tous les côtés, il dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toi qui ce matin passes par moments difficiles, au lieu de baisser la tête, relève la tête, alléluia, et proclame que celui qui est en toi va te rendre vainqueur. N'accumule pas les conséquences de l'épreuve, mais prends-toi les promesses de Dieu. Et elle dit, elles sont pour moi. Elles sont pour moi, elles sont pour moi, elles sont pour moi. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Dis à Satan, tu es perdu parce que je suis plus que vainqueur. Dis à l'épreuve, c'est fini parce que je suis plus que vainqueur. Et Paul avait ces deux piliers. Une foi ferme dans le Christ, il n'était pas englouti par l'épreuve. Et en même temps, il savait que même si ça allait mal, même s'il allait comparaître devant César, rien et personne ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Préparé et équipé pour les temps difficiles. Dieu veut que tu sois préparé et équipé pour les temps difficiles. Alors, ces deux piliers lui permettaient d'avoir une espérance incroyable. Tout le monde est paniqué. Il me semble qu'ils devaient tous courir sur le bateau d'un côté, de l'autre. On tire les voiles, on tire les cordages. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Eh bien, l'Écriture me dit que Paul avait une espérance dans son cœur. Et cette espérance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où est entré Jésus pour nous. Vous savez, un bateau, quand il veut se positionner, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'ancre, oui ou non? Ah oui, il jette l'ancre. Et il sait que, le capitaine sait que cette ancre va tenir le bateau, va amarrer le bateau. Et même s'il bouge d'un côté ou de l'autre, ça n'ira pas bien loin. Parce qu'il y a une ancre qui garantit la sécurité du bateau. Eh bien, c'est pareil pour nous. Et celui qui garantit notre sécurité, c'est Jésus. Voilà. L'ancre, elle est plantée. Elle est posée. Pas n'importe où. Mais je dirais qu'elle est posée dans le cœur même de Dieu. Dans le cœur même de Dieu. Même si peut-être aujourd'hui tu es ballotté un peu d'un côté et de l'autre, mais pas de souci, Jésus tient bien la corde. Et il la tient pour toi, afin de transformer ta tristesse en joie, ta défaite en victoire. Il tient l'ancre, et c'est lui qui te dit, rassure-toi, ça va tenir bon, et tu vas t'en sortir. Il faut qu'à la fin de cette réunion, tous ceux qui passent par un moment difficile soient en seuil débarrassés, hein. Pas repartir avec tout votre bazar tout à l'heure, là. Il faut tout laisser, là. Et oui, on est là pour ça ce matin. Déjà depuis ce matin, ça commence. Hein. Les chants, ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, les paroles prophétiques. Alors, j'interdis à quelqu'un de repartir avec son épreuve et sa difficulté. OK ? Voilà. Merci Maurice de ton soutien. Et oui, autrement, qu'est-ce qu'on fait là ? Rien, hein. C'est simplement pour dire, ah, c'est beau, c'est formidable, et quand je repasse la porte, oh là là, quel tracas, et j'en ai encore, et qu'est-ce que je vais trouver à la maison, et que... Non, on est ici pour remporter la victoire. Voilà, on est venu pour quelque chose ce matin. Thomas, c'est pas la peine, hein. Bon, continue. Paul va plus loin. Dans le livre des Actes, toujours, chapitre 27, versets 23-24, eh bien, on s'aperçoit que Paul, malgré toute la tempête, va rester en relation avec Dieu. En relation avec Dieu. Vous savez, quand j'imagine un petit peu sur ce bateau, hein, le vent qui s'ouvre, ça part de tous les côtés, la moitié des affaires partent dans la flotte, les voiles sont peut-être déchirées, on n'a plus vu les étoiles, plus le soleil, on n'a plus de repères, on n'a plus de guide, on n'a plus rien. Et Paul est là, il dit, bien, moi, ma relation avec Dieu n'a pas changé. Vous avez remarqué que les verbes sont au présent. Paul ne dit pas un ange du Dieu à qui j'appartenais ou que je servais. Il dit non, un Dieu à qui j'appartiens toujours, et même là avec les chaînes et dans ce bateau qui va couler, je le sers encore. Alléluia. Dans ton épreuve, tu appartiens toujours au Seigneur et tu es toujours serviteur et servante de Dieu. D'accord avec ça? Vous avez raison. Eh oui, imaginez que chaque fois qu'on a une épreuve ou un souci ou une difficulté, on doute de notre appartenance à Dieu. On ne se rappelle plus qu'on est au service de Dieu. Mais au contraire, c'est dans ces moments, en fait, délicats, ces moments peut-être de frustration, que nous avons besoin de nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Paul le dira dans ses lettres aux Corinthiens, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. » Voilà. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Alors je vous exhorte, et nous nous exhortons tous ensemble ce matin, à nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Il y a un sceau divin sur notre vie. Il y a la marque de Dieu sur notre vie. Et quand nous passons au milieu, comme disait Pierre, des démons, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Ils se cassent, ils s'en vont, n'est-ce pas? Ils ont peur. Ils ne peuvent résister à un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous êtes, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alors, gardez le verbe au présent. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Voilà, la relation continue malgré la tempête, malgré la difficulté. Rien ne peut empêcher Paul de garder son statut et de remplir sa vocation. Il y a un texte que j'ai souligné dans le livre de Job qui m'a interpellé, qui m'a encouragé un petit peu dans ce sens. Vous savez, Job il passe par des moments terribles. Hein. Il vit des difficultés sans nombre, des soucis par-dessus la tête, santé, famille, etc., etc. Et vous lisez Job 40, verset 1er, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Je trouve que c'est formidable, ça. La tempête n'a pas empêché Dieu de parler à Job. Voyez ? Et peut-être le souci, l'épreuve que vous vivez ne va pas empêcher Dieu de vous parler. Voilà. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. C'est-à-dire que la voix de Dieu a été plus puissante, plus encourageante, plus forte que la tempête. Voilà. Et c'est pour nous ça aussi. Voyez ? On ne sait pas demain ce qui va se passer. Guerre d'un côté, guerre de l'autre, etc. Tellement de bazar dans ce monde. Mais même dans cette tempête, il y a toujours une parole de Dieu pour son peuple. Il y a toujours une parole de Dieu pour son peuple. Alors, restez en relation avec le Seigneur, vous lui appartenez et vous le servez jusqu'au bout de la course, jusqu'au moment où que Jésus reviendra ou qu'il nous appellera à partir. On va un peu plus loin dans l'acte 27-25. On s'aperçoit qu'il y avait encore un critère pour Paul pour être un témoin au milieu des circonstances défavorables. La confiance inébranlable. La confiance inébranlable. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Parfois, ce n'est pas toujours évident de garder cette confiance quand ça va mal. Hein. Ou quand on est un petit peu dans les nuages, quand on est un petit peu perdu, on se dit, Seigneur, hé, tu penses toujours à moi? Est-ce que tu me parles encore, Seigneur? Rappelez-vous toujours le début, hein, toute écriture est inspirée de Dieu. Hein. Donc, est-ce qu'il y a toujours cette confiance inébranlable, même quand on n'a plus nos repères, quand on ne se sent plus soi-même sécurisé quelque part? Eh bien, il faut garder cette confiance. Vous voyez, cette confiance que le Seigneur nous donne quelque chose. Dieu a fait des promesses. Et je pense que le Seigneur n'a oublié personne au milieu de nous. Il y a toujours des promesses pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Peut-être une promesse que Dieu vous a faite il y a déjà des années en arrière. Et on s'est dit, tiens, peut-être Dieu est tellement occupé qu'il a oublié la promesse qu'il m'a faite. Non, Dieu n'oublie pas. Il y a toujours des promesses que Dieu accomplit. Mais c'est vrai que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parfois, on trouve le temps long, hein, parce que nous, on est géré par ce qu'on appelle la montre, le temps chrono. Mais Dieu n'est pas géré comme nous, il ne gère pas les choses comme nous. Dieu a son temps, mais il ne perd jamais de temps. Ça, il faut se rappeler. Hein. Dieu prend son temps, mais il ne perd jamais de temps. Et s'il vous a fait une promesse, que cette promesse, vous l'avez reçue, vraiment de la part de Dieu, qu'elle a mis en vous une conviction, une sérénité, une paix, elle va s'accomplir. D'ailleurs, n'est-ce pas le prophète Habacuc qui le dira ? Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, même s'il y a la tempête qui essaie de te décourager, qui essaie de te dire, mais tu t'es trompé, tu as rêvé, eh bien, attends-la. Dieu ne te trompera jamais et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Si on va un peu plus loin, acte 27, 33-36, Paul va faire quelque chose d'assez étonnant. Voilà plusieurs jours qu'on ne mange pas, ça en serait un peu embêté quand même. Hein. Plusieurs jours qu'il n'y a pas de repas, la cantine est fermée, il n'y a plus rien. Et Paul dit ceci, n'est-ce pas ? Il exhorte tout le monde à prendre la nourriture, disant aujourd'hui, le 14... nous quand il faut jeûner 3 jours, on est déjà perdu. Hein. Ça faisait déjà 14 jours que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Paul encourage à manger. On a envie de dire à Paul, mais Paul, est-ce que c'est le moment de manger maintenant alors que ça part dans tous les sens, qu'on va se fracasser, que Eh bien oui, j'aime bien voir Paul prendre son petit panier de pique-nique, s'asseoir là au milieu du bateau, et puis commencer à manger, n'est-ce pas? Et les autres, là, ils regardent, ils disent, mais enfin, Paul, tu ne te rends pas compte de la situation? Tu ne vois pas dans quel état on est? Eh bien, Paul dit, il faut manger. C'est vrai que parfois, dans l'épreuve ou dans les ennuis, on n'a plus tellement faim. Hein? Ça arrive parfois. Tellement on est serré, tellement on a des problèmes, on n'a plus tellement faim, n'est-ce pas? Là, ça ne sert à rien. Mais vous savez, il faut prendre soin de notre corps physique. Vous savez ça? Il ne faut pas négliger notre corps physique. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein? Enfin, il ne faut pas négliger notre corps. Dieu se sert de notre corps pour le service, oui ou non? Hein? Imaginez que se prive de tout, que notre corps est en mauvaise santé, etc. Non, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Voilà. Bien sûr, il faut bien gérer les choses. Hein. Il faut éviter les débordements, les excès. Hein. Mais aussi, il y a la nourriture spirituelle. Et c'est vrai que pendant peut-être les temps difficiles, on néglige un peu la parole de Dieu. On est là, dans son coin, prostré, enfermé, et on oublie, n'est-ce pas, que Dieu a envie de nous parler, qu'il désire s'adresser à nous. Même si vous êtes dans les moments les plus difficiles, ne négligez jamais la parole de Dieu. Rappelez-vous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Je pense qu'il y a des moments où on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire, il a la réponse dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a de la parole de Dieu la réponse à chacune des situations que l'on peut vivre. Vous savez ça? Ouais. Il y a une réponse pour chacune des situations que l'on peut vivre. Voilà. Et c'est pour cela qu'on a besoin de sonder les Écritures. On a besoin de chercher la parole de Dieu, ce que Dieu a à dire dans cette situation physique, matérielle, spirituelle, familiale. Toutes les situations. Toutes les situations. Le psaume 18 dit quelque chose d'admirable, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18, 31. Voilà, la parole de Dieu est éprouvée, est un bouclier pour toi ce matin, parce que Dieu ne te veut pas dans le désarroi, dans la tristesse et dans l'abattement. Alors prends cette parole, lève-la, bouclier de la foi, et dis à l'ennemi, voilà, la parole de Dieu, elle est là, elle agit en moi, elle vit en moi, et je ne vais pas me laisser terrasser. Continue encore un petit peu, et on arrive à la fin. Acte 28, 1, 6. Ça y est, ils ont fait naufrage, comme le monde va le faire dans quelque temps. Tout s'est fracassé, sauf la vie de tous ceux qui étaient sur le bateau. C'est formidable cela. Hein? Le bateau est parti en miettes, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien. Mais tous ceux qui étaient dans le bateau ont été sauvés. Alors, on va faire un petit feu. On va se réchauffer. Chacun va ramasser du bois. Ils étaient plus d'une centaine. Et je vois une chose. Le seul qui a été mordu par un serpent, qui c'est Paul. Waouh, mais Seigneur, alors c'est le meilleur et tu le fais mordre par un serpent. C'est incroyable ça. Mordu par un serpent alors qu'ils étaient plus d'une centaine dans le bateau. Et le seul, c'est l'homme de Dieu. Waouh, c'est pas juste, Seigneur. C'est pas normal que ce soit le centenier, le capitaine, on aurait compris. Et non, c'est Paul. Voyez? Et c'est encore une stratégie de l'adversaire. Le diable voulait faire naufrage à Paul. Manqué. Et maintenant, il va chercher un deuxième moyen, c'est le serpent. Et c'est vrai que parfois, les morsures du serpent sont douloureuses. Vous savez, je compare cela aux critiques, aux médisances, aux paroles déplacées, aux injustes qu'on peut entendre parfois. Et on se dit, mais ça fait mal, ça. Seigneur, je t'aime, je veux être un témoin de Jésus, je marche dans tes voies et regarde tout ce qu'on me dit, regarde tout ce que j'entends, regarde tout ce qu'on pense de moi. D'ailleurs, c'est ce qui est dit au verset 4 du texte. Les gens qui sont là autour de lui et qui ont vu ce serpent attaché à la main de Paul, eh bien, disent certainement, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. ils ont vite fait tirer des conclusions. Hein. Ils n'ont pas regardé tout ce que Paul a fait. Il a vu le serpent, il a dit, ça c'est un coupable. Hein. Vous savez, parfois c'est vrai, les paroles font mal. Et on dit des choses qui blessent sans s'en rendre compte. Veillons à ne pas nous blesser les uns les autres. Et être prudent dans nos paroles. Prudent dans nos déclamations. Et même si parfois, on voit un truc qui n'est pas tellement d'équerre, évitons de juger trop rapidement et de condamner trop rapidement. Et là, le Seigneur va manifester sa fidélité en disant, eh bien oui, vous le jugez comme ça, vous la jugez comme ça, vous le condamnez comme ça, vous la condamnez comme ça, eh bien moi, je vais vous montrer le contraire. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? J'aimerais dire ceci, que même dans les circonstances où on peut percevoir ou essayer de percevoir quelque chose de négatif, Dieu est capable, dans ces situations, de décider que nous serions quand même un témoin de Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable, voyez. Tu m'accables, tu me condamnes, tu me juges, tu me rejettes. Mais Dieu, qui voit notre cœur et les dispositions de notre cœur, même dans ces situations-là, Dieu va décider que nous serions un témoin fidèle à cause de son amour et de sa puissance. Voilà. Et ce n'est pas parce que quelqu'un passe pour une épreuve qu'il a forcément péché ou fait quelque chose de mal. Hein ? Souvent, ça arrive. Ah, il t'arrive ça parce que peut-être quelque chose qui n'est pas net. Bon, ça peut arriver. Hein ? Mais attention de ne pas aller trop vite dans nos jugements. Lorsqu'il a décidé que nous serions un sujet de bénédiction, même dans les pires situations, il donne la preuve que nous sommes dans son plan. Voilà. Même dans les pires situations, il donne la preuve que nous sommes dans son plan. Ainsi, l'épreuve devient la preuve que nous sommes dans sa volonté. Vous vous rendez compte ? L'épreuve va devenir la preuve que vous êtes dans sa volonté, parce qu'à la finition, ça sera une bénédiction. Voilà. Ça sera une bénédiction, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Pour tous ceux qui vous entourent. Et c'est pour cela, et je reviens au commencement, où Paul nous invite à être équipés et préparés pour les temps difficiles dans lesquels nous sommes déjà entrés et qui vont s'accentuer. Peut-être cette semaine, mon frère, ma sœur, jeunes gens, vous allez rencontrer des hommes, des femmes qui seront dans la perdition, qui seront dans la dépression, qui ne seront plus où ils en sont. C'est toi qui vas les sortir de là-dedans. C'est toi qui vas les remettre sur le bon chemin. C'est toi qui vas leur montrer la bonne direction. Parce que tu es un homme, une femme, un jeune, équipé et préparé. Et tu ne vas pas te laisser engloutir par les choses négatives, par les choses perverses de cette vie, parce que tu es un fils, une fille du royaume, et tu appartiens à Jésus. Et ma conclusion est ceci, nous arrivons à cette finalité, Malachie 3,18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le rebelle, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Le monde va voir la différence, qui est un authentique enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Ce sont là les œuvres que Dieu a préparées pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour cette région de Saint-Laurent, Dieu a préparé. Alors, ils ont besoin d'être ces hommes et ces femmes équipés. Je répète, demain, peut-être tu vas être devant quelqu'un, peut-être pris au dépourvu, devant une famille, devant une situation où tu seras l'homme et la femme préparés et équipés pour apporter la réponse, pour tendre la main, pour donner la solution, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Prie le Seigneur quelques instants. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Peut-être le Seigneur t'a interpellé ce matin. Peut-être quelques-unes de mes paroles t'ont choqué, tant mieux. Mais il faut que l'Église atteigne la dimension selon l'Esprit Saint. Le temps est court et on sait qu'il peut tout se passer à partir du Moyen-Orient. Il peut tout se passer et nous avons besoin d'être préparés. Une église qui sait où elle en est. Une église qui remplit sa vocation. Une église qui est préparée. Une église qui est équipée. Un monde, personnes viendront. Des hommes et des femmes viendront ici, dans notre église. J'en suis persuadé. Des hommes et des femmes viendront. Le Seigneur doit préparer un lieu nouveau pour cette assemblée, un cadre nouveau, un local nouveau, parce que des hommes et des femmes vont venir. Des hommes et des femmes possédés vont venir. Et si nous ne sommes pas préparés et équipés, il y aura des problèmes. Mais je sais que l'Esprit Saint et l'Écriture nous interpellent et nous demandent d'être là, comme des sentinelles qui veillent pour apporter la vie, pour apporter la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous voulons nous tenir devant toi ce matin, tous ensemble, pour être ces hommes, ces femmes, ces jeunes, équipés, préparés pour les temps qui arrivent. Nous ne voulons pas nous laisser engloutir par les situations qui vont se présenter devant nous. Mais au contraire, nous voulons être ces Paul de cette génération, capable de reprendre les choses en main, capable de donner des directives, capable d'apporter une parole de vie, une parole de bénédiction. Seigneur, ta grâce est suffisante. Nous le vivons depuis ce matin, depuis le commencement. Que ton esprit parle à notre cœur maintenant. Que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui sert à rien, comme cela a été fait sur ce navire, pour rester uniquement en communion avec toi. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour le peuple de Dieu, afin que l'Esprit Saint puisse déverser dans chacune des vies tout ce que tu as préparé pour que cette Église assure encore aujourd'hui le témoignage de Jésus-Christ pour notre génération. À toi seul la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis.